Berlin a connu à son tour une attaque terroriste, revendiquée en tout cas par le groupe État islamique, un assassinat de masse avec un camion. Et à bord aussi un chauffeur polonais qui n'y était pour rien, un innocent, qui a payé de sa vie son courage. Votre réaction ?
La réaction, c'est l'indignation et l'effroi, évidemment, parce qu'une fois de plus, l'horreur n'a pas de frontières ni de limites. Et on voit bien que les ennemis de notre démocratie, de notre société, touchent à tout ce qu'il y a de plus précieux et de plus sacré. On attaque les églises. On attaque le 14 juillet, maintenant c'est le marché de Noël. Donc clairement c'est une stratégie de déstabilisation dans l'horreur et dans l'effroi. Et raison de plus de remettre le problème au niveau plus européen, puisque effectivement les terroristes semblent toujours à l'aise dans un espace élargi, et il est plus que temps que l'Europe prenne en main la coopération policière et judiciaire de manière à effectivement arrêter ces criminels.
Alors d'après vous, Europol et Eurojust, c'est pas encore assez coordonné et efficace ?
Ça fonctionne. Donc il y a eu des énormes progrès dans la coopération policière, dans la coopération judiciaire avec le mandat d'arrêt européen. Mais il n'empêche que effectivement, les choses doivent s'accélérer. Et on reste prudent, bien entendu, parce que il se peut très bien que l'attentat de Berlin ait été commis par un Allemand, de nationalité en tout cas. Donc personne ne nous dit que c'est quelqu'un qui a traversé les frontières, et encore moins qui vient de Syrie, d'Irak ou d'autres pays en guerre. Donc restons prudents en attendant effectivement plus d'informations.
Alors justement, l'Europe est en crise avec ces crises financières, migratoires et la montée des populismes. Il y a eu le Brexit, il y a une critique forte des mouvements anti-austérité. Et on voit ces fameux traités, le CETA, le TAFTA et un traité aussi avec le Japon, des traités internationaux commerciaux. Pourquoi la Commission européenne finalement se lance dans ces négociations qui parfois sont difficiles ?
Elles sont toujours difficiles. En fait, le point de départ est que notre économie est mondialisée. Donc ça, c'est un constat. Donc maintenant, il y a deux réactions possibles. Soit nous subissons la mondialisation, c'est-à-dire que les grands groupes multinationaux, comme les grands États forts, imposeront leurs règles au niveau mondial, soit nous organisons nous-mêmes l'économie et la société que nous voulons voir pour nous et pour nos enfants. Et le projet européen est fondamentalement un projet social, puisque ça repose sur des principes de solidarité entre pays, mais aussi de responsabilité, ce que l'on appelle, de manière un petit peu compliquée, l'économie sociale de marché. Donc il y a bien le mot social, c'est-à-dire organisons l'économie, bien sûr dans un cadre mondialisé, mais avec un maximum de protection. Et c'est pour ça que nous développons des accords, nous négocions très, très fortement avec des grands pays. Donc vous avez cité les États-Unis, bien sûr, mais aussi le Canada, avec deux traités qui font polémique, effectivement, sur des points tout à fait légitimes. Donc on est en droit de se poser des questions, notamment par rapport à nos différences de coutumes alimentaires. Nous savons que, par exemple, les États-Unis comme le Canada cultivent des OGM, acceptent encore des hormones dans le bœuf, lave le poulet à la javel ou au chlore. Donc ce qui est chez nous totalement interdit. Et donc ce qui est interdit chez nous ne passera pas chez nous.
En octobre, on a vu le petit poussé, si on peut dire, Paul Magnette, président de la Wallonie, faire de la résistance et donc remettre justement dans le débat public le fait que ces négociations sont opaques. Il y a d'ailleurs des mouvements de contestation qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec les mouvements européens qui avaient eu lieu en 2003 contre la guerre en Irak. On peut s'étonner d'ailleurs pour la Syrie, pas de mouvement européen comme il y a eu pour l'Irak.
C'est vrai. Alors, par rapport à la soi-disant opacité des négociations, je trouve cela injuste. Ce qui est vrai, de toute façon, c'est que, comme toute entreprise ou comme tout État, lorsqu'il y a des négociations, il y a une part de confidentialité, ce qui est tout à fait normal. On ne va pas mettre sur la table l'ensemble de nos cartes face à nos compétiteurs. Donc ça, c'est évident. Par contre, ce qui est injuste, c'est que, véritablement, nous avons un maximum de documents qui sont déjà publics, qui sont sur Internet, Bon, souvent en anglais. Vous comprendrez que lorsqu'il y a plusieurs milliers de pages, nous n'ayons pas le temps de les traduire en 24 langues, tout simplement parce que ça sera déjà périmé au moment où ce sera disponible, et que l'ensemble des parlements nationaux ont accès aux documents les plus avancés. Voilà. Donc, bien entendu, l'ensemble des informations ne sont pas mises sur la table, une fois de plus, parce que cela relève d'une stratégie avec un mandat très clair qui nous est donné par les chefs de gouvernement et d'État.
Alors, vous venez de dire que, justement, les documents sont à la disposition des parlements. On a vu la primaire de la droite avec aucun sujet sur l'Europe, sur l'avenir de l'Europe. On dit que l'Europe doit devenir plus politique. C'est un gros enjeu et pourtant, chute, rien du tout.
Il faudra poser la question aux candidats eux-mêmes. Hein. Pourquoi l'Europe est-elle si discrète dans les débats, alors que c'est un enjeu majeur, puisque on le voit bien, un certain nombre de problèmes sont systématiquement posés, hein, d'une manière très très médiatique. Vous avez mentionné le cas de la migration, le cas de la guerre en Syrie, donc ce sont des sujets incroyablement douloureux et d'actualité. La question des traités, donc on parle de l'Europe, effectivement, mais je dirais, on en parle d'une manière plus insidieuse, sous l'angle exclusivement de la critique. Donc la critique, évidemment, est salutaire, ceci dit. Ça relève effectivement du domaine politique, de savoir de quelle Europe voulons-nous. Donc si cette Europe ne convient pas, dans acte, bien entendu, mais alors c'est aux citoyens, aux électeurs, d'afficher ces choix. Et justement de forcer les candidats à se positionner sur l'Europe.
On revient pour finir au traité. Il y a le CETA, il y a le TAFTA, il y a ce traité avec le Japon. Il piétine ou ça continue les négociations?
Ben écoutez, effectivement, ça dépend des cas. Pour le Canada, vous avez mentionné le chef du gouvernement de la Wallonie, hein, Paul Magnette, qui avait remis un certain nombre de considérations sur la table, notamment la question des tribunaux d'arbitrage qui ne doivent pas être laissés, effectivement, au libre arbitre des grands groupes multinationales. Donc ça, c'est tout à fait clair. Ce n'est pas dans le traité, d'ailleurs. Donc c'est effectivement un point qui a été aménagé. Pour le reste, tout dépendra évidemment de la nature de nos interlocuteurs. Donc vous savez les résultats de l'élection américaine. Nous attendons évidemment maintenant la position claire et opérationnelle du président et de son négociateur en chef. Pour l'instant, nous ne savons pas. Nous sommes prêts, nous, à continuer la négociation sur la base, une fois de plus, du mandat que nous donnerons les chefs d'État et de gouvernement. Il est clair que pour l'instant, il y a une pause. Pour le Canada, c'est plus clair, puisqu'une fois de plus, la Belgique a donné son accord. Donc, à ce que le contrat qui nous unit avec le Canada soit respecté. Et donc l'accord commercial aille de l'avant.
Alors, pour finir tout à fait, ces traités, de toute façon, ils sont votés par nos parlements nationaux, par nos 28 parlements nationaux.
Tout à fait. Donc c'est un processus totalement démocratique avec effectivement une grande transparence, puisque le débat continuera au niveau des parlements nationaux. Donc c'est un long processus. Mais c'est ce qui garantira la solidité du traité. Et nous sommes confrontés effectivement à la fois à l'urgence commerciale, puisque en attendant le commerce continue, et il continuera sans accord en notre défaveur, puisque l'ensemble de ces accords sont faits simplement pour garantir un niveau de protection minimal aux consommateurs européens et surtout avoir la possibilité de pénétrer dans des grands marchés, ce qui n'est pas forcément le cas. Prenons le cas des marchés publics, par exemple, ils sont totalement fermés aux entreprises européennes en ce qui concerne les États-Unis. Prenons le cas notamment aussi des exportations des États-Unis en Europe. Donc, constatons simplement que, par exemple, le marché du cinéma est totalement dominé par les films américains. Il n'y a pas d'accord commercial. Donc, un accord commercial ne peut que préserver notre liberté et notre choix de subventionner, de défendre le cinéma européen. C'est un exemple parmi d'autres.